Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique ou un événement dans votre région. Aujourd'hui, nous allons parler du Festival du cinéma et des droits de l'homme qui débute samedi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alain Glaise, coordinateur de l'équipe d'animation régionale de l'ACAD. Bonjour à vous.
Bonjour.
Slavko, on dit Petrizine, j'ai réussi à le dire. Vous êtes membre d'Amnesty International et membre vous aussi de l'équipe d'organisation. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Françoise Laborde, qui est une voix connue des auditeurs de Radio Présence, membre de l'équipe aussi d'animation du CCFD Terre Solidaire.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, est-ce que l'un d'entre vous peut nous présenter le Festival du cinéma et des droits de l'homme?
Si vous voulez.
Allez-y.
Ben, le festival, il a donc 16 ans. Il s'appelait d'abord Festival international du film des droits de l'homme parce que nous dépendions d'une organisation parisienne. Et puis, on s'est un peu séparés et on a repris une organisation autonome, mais avec le même esprit, c'est-à-dire illustrer par le biais du vecteur puissant du cinéma les situations d'injustice ou de progrès des droits humains dans le monde. Et notre point fort dès le départ, ça a été de travailler avec un collectif d'associations qui sont différentes, certaines confessionnelles comme le CCFD ou la CAT, il y avait le Secours catholique au départ, et puis d'autres qui sont vraiment férus des droits de l'homme comme Amnesty, d'autres qui sont plus sur l'accès santé, Médecins du Monde et Médecins sans frontières qui a rejoint un peu plus tard. Il y a aussi l'École des droits de l'homme et de la terre qui a rejoint et qui a un peu cette même variante importante de la défense des droits humains.
Il faut ajouter la septième organisation qui voilà. Sont les Amis du Monde Diplomatique.
Exactement.
Donc le Festival du cinéma et des droits de l'homme, donc projection de films, mais il y a aussi des expositions, c'est ça?
Voilà. Il y a toujours deux expositions, une à l'ABC, une à l'Espace des Diversités. À l'ABC, à l'Espace des Diversités, Slavko la présentera puisqu'il s'agit d'Amnesty International. Et à l'ABC, c'est une exposition qui est liée à Médecins du Monde, donc qui montre un peu les personnes, la difficulté et le rayonnement en même temps des personnes qui sont sans abri et qui se défendent. C'est des photographies d'Antoine Bazin qui sont très belles. Voilà.
Il faut ajouter une particularité aussi qui est importante, c'est que tous les films sont suivis par un débat voilà. Et menés par des intervenants de qualité. En général, ça peut être le réalisateur, ça peut être un spécialiste du sujet traité, un témoin important, etc., etc.
On le disait, 16e édition de ce Festival du cinéma et des droits de l'homme qui débute samedi à Toulouse et dans toute la région. L'objectif de ce festival, c'est de sensibiliser aux droits humains, vous le disiez, en France, mais aussi en Europe et dans le monde
dans
entier.
Dans le monde entier, oui, absolument. On constate qu'à l'heure actuelle, les droits de l'homme sont un peu plus menacés peut-être qu'avant, avec la montée d'un certain nombre de régimes politiques dangereux pour les droits de l'homme, disons.
Par ce festival, vous estimez, si je comprends bien, que le public n'est pas assez informé sur les droits de l'homme?
Il reçoit une masse d'informations avec les médias actuels, mais pas forcément de manière approfondie. On glisse d'un sujet à un autre, on focalise sur des choses dramatiques et après, peut-être, on oublie l'essentiel qui est derrière. On passe d'un sujet à l'autre, on zappe. Donc, ce festival permet de faire des focus approfondis sur des thématiques de pays ou de situations de non-respect des droits très diverses. Hein. Écologie, droits humains fondamentaux. Voilà.
En plus, on a l'impression qu'en France, à l'anglaise, on est protégé en ce qui concerne les droits humains.
On est protégé, absolument. On a quand même un droit qui est solide, des institutions qui sont elles aussi solides, mais il y a quand même un certain nombre d'atteintes. Il y a un film en particulier dont on parlera tout à l'heure qui montre qu'il y a un certain nombre d'abus, en particulier lorsque l'on se permet de manifester c'est pas toujours évident d'aller dans la rue et de manifester à l'heure actuelle.
Merci d'avoir précédé effectivement l'intervention que je voulais faire à ce sujet, justement sur le film Présumé coupable, qui met en scène justement des cas flagrants de violence policière contre des manifestants pacifiques.
Puis on peut parler aussi de l'accueil des émigrés, on peut parler de la situation sanitaire, de la situation en général dans les maisons d'arrêt en particulier, etc. Il y a quand même un certain nombre de faits en France qui montrent que les droits de l'homme ont besoin d'être examinés sérieusement dans un certain nombre de circonstances. Oui.
Et même au niveau des médias, le film Média Crash pose de bonnes questions sur la liberté d'expression. Et voilà.
Justement, par rapport aux médias, j'avais une question là-dessus. C'est vrai que le public est bombardé très régulièrement d'informations, notamment concernant les droits de l'homme. C'est cette surinformation qui fait qu'on ne sait pas trop quel est le vrai du faux, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, de ce qu'il n'y a pas à apprendre.
Ben, nous sommes là pour rectifier le tir, si je puis dire. En fait, à propos des médias, une particularité, surtout sur la région toulousaine, c'est qu'on a des difficultés à avoir accès aux médias. Alors, je ne sais pas, tu as peut-être été interviewé par La Dépêche récemment.
Oui, pour la première fois depuis une éternité.
C'est pas évident. Mais de gros médias qui pourraient s'intéresser à cet événement, comme FR3, très souvent, ils nous font défaut, quoi, je veux dire. Et je dis Toulouse, bon, le festival, c'est Toulouse et la région Midi-Pyrénées. C'est plus facile, effectivement, d'avoir des articles et d'avoir un prolongement, justement, d'informations dans les médias en région plutôt qu'à Toulouse. C'était une des difficultés, ce qui ne nous empêche pas de tracter, de déposer des dépliants, des affiches dans tous les centres culturels de la région, ce qui compense un peu cet effet négatif.
C'est difficile de fédérer autour de cette cause des droits humains ? Et si oui, pourquoi ?
C'est des sujets difficiles, c'est des sujets qui font mal, qui sont douloureux souvent, ou choquants. Et en même temps, on sait bien, on est soi-disant le pays des droits de l'homme, donc on sait bien que c'est indispensable d'en parler, même plus que d'en parler, il faudrait crier.
Il y a une certaine dérision aussi à propos des droits de l'homme. Oui. On parle de droit de l'hommisme de manière un petit peu méprisante. Et voilà, ça aussi, c'est une mentalité qui a tendance à... On a l'impression que les gens sont un peu lassés d'entendre toujours ce refrain, les droits de l'homme, les droits de l'homme. D'ailleurs, je ferai remarquer au passage qu'on dit davantage les droits humains maintenant que les droits de l'homme.
Voilà. On a gardé
Parce que le mot homme, évidemment... Le français est correct quand on dit droit de l'homme. On sait bien qu'en français, l'homme désigne aussi bien l'humain, l'être humain, que l'homme mâle. Hein. Mais voilà, les féministes sont quand même vent debout contre l'expression les droits de l'homme. Préfèrent les droits humains.
Il est évident que, comme l'actualité, bon, tu en parlais tout à l'heure, avec tous ces régimes autoritaires, en particulier justement en 2022, qui sont arrivés au pouvoir, on est bombardé effectivement de mauvaises nouvelles en permanence, et il est difficile par la suite de faire venir des gens sur les sujets qui sont pourtant importants pour eux comme pour tout le monde, effectivement. Et les gens préfèrent effectivement se réfugier dans des... Je ne sais pas si on regarde la télévision, dans des séries ou des divertissements qui leur permettent de changer de leurs idées noires.
Justement, on vient de terminer l'année 2022 il y a quelques jours. Est-ce que l'année 2022 a été une bonne année pour les droits humains ?
Point positif, l'élection de Lula
au Brésil.
Ça c'est un des points positifs. Après,
il y a toujours des avancées, de toute façon.
Mais lesquelles, par exemple ?
Bon, alors je peux pas en parler comme ça, mais j'aurais des exemples de particuliers, effectivement. Pour parler simplement d'Amnesty International, on a souvent des retours justement de personnes qui ont été aidées par le moyen classique qu'utilise notre organisation, c'est-à-dire la pétition, qui ont même pu être libérées, etc. etc. Mmh. Je n'ai pas de nom particulier en tête, mais je sais que si j'avais pu, j'aurais dû venir, d'ailleurs j'aurais dû venir avec une liste de personnes comme ça qui remercient Amnesty pour des libérations, des meilleures conditions de détention, etc. etc. quoi. Donc il y a quand même... c'est-à-dire, en résumé, ce n'est pas tout noir, effectivement. Non, non. Voilà, politiquement, c'est un peu triste, pour ne pas parler des guerres, etc. Mais il y a quand même des avancées ici et là. Mais il faut constamment être sur la brèche.
Mmh. On peut dire quand même que 2022 est fondamentalement marqué par la guerre en Ukraine. Cette agression absolument... monstrueuse, hein, on peut dire. Et ce qui se passe actuellement, c'est crime de guerre sur crime de guerre, avec ces bombardements de populations civiles. C'est même pas deux armées face à face. C'est un pays qui envoie des missiles sur une population civile, bon, qui a quelques moyens de défense antiaérien, mais il y a quand même des missiles qui atteignent leur but. Et ça, c'est monstrueux.
On parlait de la guerre en Ukraine, on peut parler aussi de la Coupe du Monde de football au Qatar. 6500 travailleurs décédés dans la construction des stades. C'est vrai que la Coupe du Monde a permis de mettre en lumière ce terrible drame, mais ça a été très vite oublié.
Oui,
absolument.
Alors effectivement, Amnesty a particulièrement planché sur cette question. Bon, il se trouve que, bon, on en parle en général comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas repris ça dans le festival du film. Mais Amnesty est d'ailleurs toujours sur la brèche, puisqu'il réclame effectivement l'indemnisation des travailleurs à des hauteurs astronomiques, qui seront difficiles à maintenir. Vous citiez ce chiffre de 6500. Bon, ça, c'est le Guardian, le journal anglais, qui en avait parlé à l'origine. Bien sûr, c'est contesté par le Qatar, qui lui dit qu'il y a une poignée de personnes qui ont péri. Tous les autres, c'est des crises cardiaques, etc. Enfin, des morts naturelles, etc.
Et peut-être que ces 6500 travailleurs étrangers décédés sont peut-être minimisés par rapport à ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au Qatar.
Complètement.
Pour revenir sur ce festival du cinéma et des droits de l'homme, ça débute samedi, ça se termine le 22 janvier. Quelles sont les dates et les lieux importants à connaître ?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait des lieux particuliers. Hein.
Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas uniquement à Toulouse, c'est dans toute la région toulousaine et même toute la région occitanie. Oui, vous débordez assez loin.
C'est ce qui fait un petit peu l'intérêt du festival. D'ailleurs, je dirais, bon, vous parlez de points plutôt d'intérêt. On a vocation à s'étendre le plus possible. Et c'est vrai que là, j'ai une carte des départements qui sont affectés. Bon, il y a pratiquement tous les départements qui sont touchés. Même cette année, donc, j'ai pu mettre un pied à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, qui n'était pas dans la liste habituelle, quoi. Mais de Tarbes à Saint-Matin, en passant par... jusqu'à Carcassonne, même, on sort carrément là, de Midi-Pyrénées. Ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, moi, au sein du collectif, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller plus avant, effectivement, dans les régions qui sont moins souvent touchées par... moins touchés, qui n'ont pas l'occasion toujours d'avoir des débats et des événements de cette importance sur des sujets aussi préoccupants, quoi, c'est ça, quoi. Parce que Toulouse, en fait, on est envahi
de
festivals et de propositions et d'animations, effectivement, quoi, c'est ça, quoi.
Plusieurs organisations participent à ce festival du cinéma et des droits de l'homme à Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées. On vient de le voir, on va les citer quand même, l'ACAT, Amnesty International, le CCF des Terres Solidaires, l'École des Droits Humains et de la Terre, les Amis du Monde Diplomatique, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières. Alain Glaise, pour l'ACAT, pourquoi c'est important de participer à ce festival ?
Bien, l'ACAT utilise le cinéma. Là, depuis de nombreuses années, l'ACAT utilise le cinéma, entre autres, pour faire passer son message. Tout à l'heure, je vais parler du film L'Empire du silence, mais du même réalisateur. Je pense que tout le monde se souvient de L'homme qui répare les femmes, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018. Et ce film qui était sorti en 2016, d'ailleurs qui avait donné lieu à une séance avec débat à Colomiers, je crois.
Colomiers. Voilà. Mmh. Oui.
Donc utiliser l'image pour transmettre un message.
Donc nous soutenons, et même quelquefois financièrement, pour l'Empire du Silence, par exemple, la Fondation A4 l'a soutenu financièrement ce film. Et donc c'est un vecteur très, très important pour faire passer un certain nombre de messages qui concernent l'A4. Alors je rappelle que l'A4 est très centrée sur tout ce qui est torture et mauvais traitement. Mmh. Hein, c'est l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Donc on est vraiment centré sur ce, là-dessus. Et donc ça va jusqu'aux crimes de guerre, jusqu'à tout ce qui est génocide, etc. Depuis la simple torture, depuis les mauvaises conditions en prison, etc. Oui.
Même question pour vous, Slavko Petrizine. Pourquoi c'est important pour Amnesty International de participer, d'être acteur de ce festival?
Bon, c'est vrai qu'on a X possibilités d'intervention dans la rue et à d'autres manifestations. Mais le biais du cinéma est toujours très intéressant parce que ça permet d'accrocher un petit peu par le revers des personnes qui, si on ne le faisait pas par le biais du cinéma, passerait à côté de questions aussi importantes que justement celles des droits de l'homme dans tel ou tel pays ou sur tel ou tel thème, quoi, c'est ça. Donc c'est vrai que le cinéma et l'intérêt du festival, en plus, si je puis dire, c'est que c'est créé en synergie avec toutes les autres associations et que donc ça renforce encore l'impact, le visuel de ce festival. Donc, on se répartit, je veux dire, les 7 organisations, chacune dans son coin, ce qui se fait quand même, de toute façon, et qui est positif. Mais le fait de se retrouver tous ensemble, à mon avis, donne davantage de possibilités de démultiplication des thèmes qui sont développés pendant le festival.
Davantage de portée, Françoise Laborde, c'est pour ça aussi que vous participez avec le CCF des Terres Solidaires à ce Festival du cinéma des droits de l'homme.
Oui, moi je me souviens de la première sollicitation qui venait de Maëlys Daboville, qui était militante pour ce festival à Paris, pour le Secours catholique à ce moment-là. Et je m'étais dit, mais oui, c'est génial, parce qu'on va pouvoir illustrer le travail de partenaires, le travail de personnes qui s'engagent. Et puis en parler ici, quoi, parce que, bon, bien sûr, il y avait les pétitions de la CAT, il y avait le travail du CCFD. Et le CCFD est aussi engagé pour soutenir un certain nombre de films, plus dans le festival alimentaire, puisque lui, c'est quand même le travail de la lutte contre la faim. Mais on est assez généraliste et on a des partenaires engagé dans pas mal de thématiques qui rejoignent aussi les questions d'environnement, les questions de droits humains fondamentaux. Donc oui, l'image, c'est un vecteur puissant qu'il faut savoir utiliser.
Qu'est-ce que vous essayez de susciter chez le public qui viendra voir ces films? Une prise de conscience peut-être, Alain Glaize?
Oui, une prise de conscience. Je pense quand même que les gens qui viennent à ce genre de festival sont déjà quand même convaincus. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est vraiment faire venir des gens qui se posent des questions, qui doutent de l'utilité de la défense des droits humains.
C'est ça qu'il faut leur dire pour les convaincre de venir.
C'est pas. On a eu alors parfois des séances animées à cause de points de vue divergents sur certains pays, comme la Palestine, où là, il y a des sujets un petit peu tendus. Mais c'est vrai que sinon, le public est ou intéressé par le pays ou déjà touché par la question des droits humains. Et toucher le grand public, ce serait vraiment un de nos souhaits, mais c'est difficile.
Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que la plupart des gens qui assistent aux séances, comme tu le disais, sont souvent des gens qui connaissent les thématiques qui sont développées, qui connaissent nos organisations. Mais je pense qu'un petit peu, on arrive, encore une fois, j'emploie ce mot, à raccrocher quelques personnes. Ne serait-ce qu'une poignée de personnes, c'est toujours positif, effectivement, de leur parler et effectivement de leur faire prendre conscience, de leur montrer des choses à côté desquelles ils seraient passés à côté si on les avait laissés comme ça dans la nature, quoi. Mmh. Et j'insiste en plus, en allant en région où il y a moins de possibilités de connaître de tels événements.
Chaque projection est accompagnée d'un débat, vous le disiez en début d'émission. Pourquoi c'est important derrière de proposer ce débat au public? C'est pour expliquer un petit peu le film et opposer deux visions différentes?
Je crois que la plupart de ces films, quand même, interrogent le public, et le public a des questions, graves souvent. Et donc, c'est important de. Je crois que dans un public, des questions surgissent de telle manière que je crois que ça fait partie de la pédagogie, finalement, des films. En posant une question, un spectateur peut amener d'autres spectateurs, effectivement, à se dire « bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, etc. » Et la personne qui anime le débat apporte une réponse, fait avancer la question. Et donc, je pense qu'au niveau de la pédagogie, c'est absolument essentiel. Qui est un débat à la fin du film.
Mais oui, puis d'avoir quelqu'un qui a un éclairage de spécialiste, parce que nous, on connaît des choses, mais on n'est pas spécialiste de tous ces sujets, donc c'est important.
On va faire une première pause musicale et après on parlera des expositions aussi et on détaillera un petit peu tous les films qui sont projetés. On écoute Tomber du ciel d'Antidote.
Ça fait plus de 2000 ans, donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien.
Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh.
On imaginait Dieu au-dessus des nuages, dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs, il a goûté à nos joies et nos crèves-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains, pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. Cette croix,
cette croix. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre.
Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. présence. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour parler du Festival du cinéma et des droits de l'homme qui a lieu à Toulouse et dans sa région à compter de samedi. J'ai toujours le plaisir d'être avec Alain Glaise, Françoise Laborde et Slavko Petrizine. On disait le Festival du cinéma et des droits de l'homme, c'est des projections de cinéma, tout simplement de films, mais aussi des expositions. L'une d'entre elles, elle est l'œuvre de Amnesty International. Elle parle de quoi ?
Bon, en fait, ce sont des images. Il y a un petit livret d'accompagnement. J'aurais pu en amener un, d'ailleurs, ici. Parce que cette exposition a déjà eu lieu et à Toulouse, notamment, cet été, puisque le Centre culturel Bellegarde nous avait proposé, effectivement, de rester un mois à ce moment-là. Donc, elle est intitulée « 50 ans de militantisme en France », c'est-à-dire que ça, c'est effectivement comme tu... le rappeler tout à l'heure en France, mais sachant que Amnesty International existe depuis 60 ans à l'international, dont le siège est à Londres. Alors ce sont des photos, elles sont commentées avec le petit livret, et elles rappellent des événements, certains quand même qui datent maintenant un petit peu, mais qui sont emblématiques un petit peu de ce que fait Amnesty International. Je pense notamment à celle qui figure sur... le petit livret qui rappelle ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en Chine à l'époque et effectivement avec les massacres qui ont eu lieu quoi, et que ne reconnaissent toujours pas les autorités chinoises. Voilà donc beaucoup de photos sur ces 50 ans de militantisme en France avec des images emblématique de ce que fait Amnesty International.
Et pour être totalement complet, ça se passe à l'espace Diversité Laïcité de samedi jusqu'au 21 janvier, 38 rue d'Aubuisson à Toulouse, entrée libre du lundi au samedi, 9h-20h, et le vernissage a lieu le samedi à 15h. La deuxième exposition, Françoise Laborde, vous allez nous en parler un petit peu, même si vous ne la connaissez pas énormément, mais en tout cas, elle est organisée par Médecins du Monde, c'est ça ?
Voilà. Oui, c'est une exposition qui a déjà été présentée aussi à Toulouse, qui s'appelle « En équilibre ». Et ce sont de très belles photos d'Antoine Bazin qui montrent un petit peu la vie des personnes qui sont en précarité dans les rues. Et en même temps, la résilience, la reconstruction qu'elles peuvent vivre. Et un peu cette exposition témoigne de manière positive sur ces personnes. Donc c'est au cinéma ABC, donc la semaine du 7 au 22 janvier, rue Saint-Bernard. Voilà.
Parle-nous un petit peu de la photo qui accompagne la présentation de cette exposition, une photo qui est pleine de sens.
Oui, et oui, parce qu'on voit donc une femme avec une espèce de cape de manteau, les yeux sont cachés, elle crie, mais alors on est entre la joie et le cri d'appel, mais je crois qu'il y a quand même de la joie puisqu'on nous parle de résilience et que elle est maquillée, on sent qu'elle a des bijoux, elle a les ongles faits, il y a une coquetterie et en même temps un appel. Bon, j'aime beaucoup cette photo, elle est très parlante.
Et voilà, on reprécise cette exposition, 13 rue Saint-Bernard, cinéma ABC du 7 au 22 janvier, entrée libre tous les jours aux horaires du cinéma. On va passer sur le volet tout simplement film qui occupe une grande partie de ce festival cinéma et droits de l'homme à Toulouse. À l'anglaise, le premier film dont vous avez décidé de nous parler, c'est L'Empire du silence, 25 ans de violence en République démocratique du Congo.
Voilà, alors c'est un film de Thierry Michel, c'est son 14e film documentaire sur la République démocratique du Congo. Depuis maintenant bientôt 30 ans, il y a une guerre, une série de guerres, on peut dire, en République démocratique du Congo, essentiellement dans l'est de ce pays. Ce pays est presque aussi grand que l'Europe, hein. C'est un pays immense. Oui. Et donc dans l'est, qui a des frontières avec le Rwanda, avec l'Ouganda en particulier, donc il y a toute une série de guerres qui mettent en jeu des rebelles, des Rwandais, des Ougandais, et évidemment des Congolais. Et en gros, on peut dire que... un des déclencheurs de cette série de guerres, c'est le génocide au Rwanda dans les années 90. Voilà. Et c'est un petit peu, enfin, c'est en grande partie la suite, puisqu'on va retrouver les Hutus et les Tutsis opposés dans ce conflit. Alors, L'Empire du silence, c'est un film absolument remarquable parce qu'il présente d'une manière très didactique 25 années de guerre. C'est-à-dire que véritablement, si on veut comprendre ce qui se passe et qui est extrêmement compliqué, eh bien, ce film est un panorama géopolitique sur cette série de conflits. Et on ressort vraiment avec les idées en place, là, quand on a vraiment une idée de... On sait véritablement ce qui se déroule. L'an dernier, on avait présenté le film En route pour le milliard, qui est un épisode, enfin qui se rapporte à un épisode de cette série de guerres. Et cette année, eh bien, on présente un panorama très bien fait. Il y a des cartes, les choses sont vraiment très très bien expliquées. C'est un film dur par moments, dur à regarder, parce qu'il y a quand même rien n'est caché. Mmh. Rien n'est caché. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un film militant. C'est un film qui se veut un plaidoyer contre l'impunité des criminels de guerre. Et ça, c'est très important. C'est à la demande du docteur Mukwege, dont je parlais tout à l'heure, que Thierry Michel a entrepris de faire ce documentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que il existe un rapport qu'on appelle le rapport Mapping, qui a été fait par l'ONU et qui recense des crimes, plus de 600 crimes de guerre commis entre 1994 et 2004. Et ce rapport a été publié, sauf que il n'y a pas les noms des responsables de ces crimes. Les noms des responsables de ces crimes sont dans un registre qui est tenu scellé à l'ONU à Genève. Et ce que le docteur Mukwege souhaiterait, c'est que des mécanismes de justice internationale se mettent en place et que les criminels soient d'une part révélés et jugés. Donc une justice se mette en place pour lui. Et donc c'est un peu à sa demande, c'est même à sa demande express que Thierry Michel a réalisé ce documentaire qui justifie, qui montre comment l'impunité entretient ces conflits. L'impunité et bien entendu aussi l'intérêt, où tout le monde sait bien qu'il y a des minerais tout à fait important, en partie, donc tout le monde pense au coltan, double minerai de niobium et de tantal, deux métaux stratégiques, on parle de métaux numériques, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais il n'y a pas que ce type de métaux, vous avez des métaux qui servent aussi dans des tas d'industries, il y a de l'or, il y a des diamants, etc. Et le fait d'avoir ces conflits en permanence entretenus favorise une exploitation tout à fait en dehors des règles de droit du travail, et donc en exploitant des populations qui sont ruinées, qui sont dévastées par ces guerres, et où les survivants trouvent des petits emplois dans les mines, etc. Voilà. Donc tout ça se mélange.
Le second film dont vous souhaitiez nous parler, c'est L'État du Texas contre Melissa.
Alors là, on est plutôt dans une autre thématique,
autre réalité,
c'est la thématique de la peine de mort, plus exactement de la justice aux États-Unis, de la manière dont la justice est rendue aux États-Unis. Et évidemment, quand on commet des erreurs judiciaires et que ça, en condamnant quelqu'un à mort, c'est particulièrement grave. C'est le cas qui est exposé dans ce film « Melissa contre l'État du Texas ». Donc cette femme a été condamnée en 2008, accusée d'avoir tabassé une petite fille, de l'avoir battue à mort. Elle a toujours nié. Le procès a été très mal fait. Un procureur général l'a utilisée pour favoriser son élection. Oui. Vous savez que les juges sont élus là-bas. Comment ça se passe Et un avocat s'est saisi de cette affaire pour, non pas défendre sa cliente, mais plutôt pour arriver à faire partie de l'équipe du futur élu. Voilà, enfin bon. Donc, alors heureusement, on est arrivé progressivement, c'était très long. Vous savez quand même que les condamnés à mort ont un certain nombre de recours.
Oui.
Et au mois d'avril de cette année, de l'année écoulée, 2022, à deux jours de l'exécution, eh bien, l'exécution a été suspendue et la révision du procès va se faire. Donc, c'est cette histoire qui est racontée. Hein, voilà, comment des gens de bonne volonté sont arrivés à montrer que cette affaire était en fait une erreur judiciaire. Donc depuis 2008, elle est quand même en prison depuis 2008.
Voilà. Slavko Petrišin, vous avez sélectionné deux films. Le premier, c'est Présumé coupable, qui parle des violences policières vis-à-vis des manifestants.
Voilà, alors c'est un petit peu revenir sur l'actualité française et parler malheureusement de ce qui se passe quand il y a une manifestation, même si elle est pacifique, avec... D'abord, les violences sur le terrain, mais aussi les poursuites judiciaires qui peuvent s'ensuivre. Alors, ce film, je l'ai déjà passé à l'Utopia Bordeaux-Rouge, j'y avais assisté. Je rappelle que c'est un film qui a été... c'est un film documentaire qui a été réalisé à la demande d'Amnesty, pour le compte d'Amnesty International, notamment. Et... dans ce film apparaissent un certain nombre de personnes dont les droits, on estime qu'ils ont été un petit peu bafoués. Je crois qu'il y a un syndicaliste, il y a cette... Et alors je cite toujours le cas de cette personne qui est Odile Morin, qui est une militante radicale, je dirais même, voire extrémiste, puisque pour la citer, elle avait pris la tête d'une manifestation de fauteuils roulants pour protester effectivement contre le manque de comment dire, pour montrer que la situation des personnes handicapées en France n'était pas ce qu'elle devrait être du fait du manque des aides gouvernementales en fonds, en établissements, en soins médicaux, etc., etc. Et elle s'était rendue sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, donc c'est une Toulousaine, et pour ce, elle a été poursuivie. Alors je ne sais pas où en est le procès, bon, il doit y avoir des appels successifs, donc c'est en cours. Mais voilà, pour situer le personnage. Et elle était apparue, donc je citais cette information quand elle était à l'Utopia Bordeaux-Rouge, elle était venue parler. Et voilà, une anecdote aussi qui illustre un petit peu cette situation des personnes handicapées qui sont frappées, c'est que comme elle est en fauteuil roulant, elle participait à des manifestations de gilets jaunes. Et il se trouve qu'elle s'était heurtée à des barrages de police et elle a été poursuivie parce qu'on a estimé que son fauteuil roulant était une arme par destination et que donc elle a violenté des policiers. Alors que c'était le contraire qui s'était passé. Non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est véridique. Elle est poursuivie pour ça, quoi, effectivement.
Donc ce film raconte tous ces destins.
Alors voilà, il y a cette personne, il y a d'autres personnes qui apparaissent dans le film, il y a des avocats qui parlent également. Donc c'est un film qui est très bien documenté et qui montre que, comme on le rappelait tout à l'heure, même en France, la situation de certaines catégories de personnes, malheureusement, mérite qu'on se penche sur le sort qui leur est réservé.
Le second film, c'est un film très très actuel, Wagner, l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine, le président russe.
Voilà. Alors, pourquoi l'ombre de Poutine ? Parce que en fait, Wagner, qui est une milice privée, qui appartient à un milliardaire russe qui s'appelle Evgeny Prigojine, qui est d'ailleurs poursuivi sur le plan international, mais bon, c'est une milice qui fonctionne sans garde-fou de droit humain, bien sûr, et qui se permet de toutes les violences, sachant que au départ, elle n'était pas reconnue. Même Evgeny Prigojine, celui qui l'a créé, niait le fait que ce soit une milice privée, etc. Alors que cette milice, elle a acquis une très grande importance par le nombre de personnes. Comme son dirigeant, effectivement, avait de l'argent, donc il pouvait payer pas mal de personnes tête brûlée en particulier, et qui se sont répandues un petit peu partout dans le monde, en Afrique en particulier. Actuellement, on le sait peut-être pas trop, mais c'est vrai qu'ils agissent, y compris contre les intérêts français. Je crois que j'ai vu une... C'était au Mali. Il y avait eu... les Français étaient partis... Ils avaient quitté une caserne et cette milice avait mis en scène des cadavres qui avaient été déterrés près de la caserne française. Et ils les ont attribués, bien sûr, aux Français qui, en partant, ont tué des civils, etc. Ce qui est une intoxication totale, bien sûr. Bon, l'État français, c'est justifié après, etc. etc. Enfin, voilà un petit peu sa façon de... Autre détail sordide, c'est que cette milice a fait passer, à propos de la guerre en Ukraine, puisqu'ils sont utilisés également sur le terrain, sachant qu'eux peuvent tout se permettre sans rendre des comptes, au moins l'armée de Poutine, elle est ce qu'elle est, même si elle commet des tortures, des massacres, etc. La milice, elle ne sera jamais poursuivie, en tout cas en Russie. Donc, oui. Voilà. Et ils avaient mis en scène, d'ailleurs, sur une vidéo... assez dur, où ils massacraient à coups de crosse un membre de la milice qui avait eu le tort de fuir côté opposé, donc en Ukraine, qui a été repris malheureusement et dont le sort... donc il s'est retrouvé entre les mains de ses patrons qui l'ont assassiné. Et ont montré pour l'exemple, voilà ce qui risque de vous arriver si... Enfin bref, c'est pour dire...
Un film dur en tout cas, mais nécessaire.
Absolument.
Et puis ce qui est important, c'est que c'est l'ombre de Poutine parce que ce sont les moyens quand même de la Russie qui aident l'armée à fonctionner. C'est ce que disait la réalisatrice.
C'est vrai.
Un témoin qui était justement un repenti de Wagner qui disait que mais non, on ne peut pas travailler, on a les moyens de l'État russe, mais c'est caché.
C'est vrai.
C'est eux qui fournissent tout le matériel. Donc.
Françoise Laborde, on entendra dans quelques instants vos deux choix de films pour ce festival du cinéma, mais juste avant, on fait une nouvelle pause musicale. On écoute Libre et vainqueur de Be Witness.
Thank you.
présence. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Alain Glaise, Slavko Petrizine et Françoise Laborde pour parler de ce 16e festival du cinéma et des droits de l'homme qui débute samedi à Toulouse et dans sa région. Françoise Laborde, vous avez sélectionné vous aussi deux films. Le premier, c'est Nous tous, vivre ensemble en paix.
Voilà, donc c'est un magnifique documentaire, c'est le film le plus positif de notre édition 2023, qui est un film de Pierre Pirard, un réalisateur belge qui était ingénieur, qui est devenu enseignant, et puis qui traversait tous les jours le pont qui joint son quartier au quartier de Molenbeek, d'où sont partis les terroristes, et qui se disait pourquoi il y a des ponts pour joindre les secteurs et il n'y a pas de pont entre les hommes. Donc il est parti à la rencontre d'initiatives dans le monde entier autour de la paix, de la réconciliation, du dialogue interreligieux dans toutes sortes de pays. Et c'est un film qui est magnifique, qui est porteur d'espoir, qui montre des initiatives de citoyens, de gens qui ont souffert en Bosnie-Herzégovine. C'est des gens qui sont des victimes et qui ont monté des associations pour faire se rapprocher les musulmans et toutes les autres communautés. Et vraiment, c'est un film qui mérite d'être vu, et on aura la chance d'avoir le réalisateur donc pour les séances de Lavelanet et de Colomiers le 11 et le 12. Et ensuite, elle clôturera aussi le festival aux abattoirs avec deux intervenants locaux.
Et le deuxième film, c'est
Alors,
Les
le
autres chemins.
Film, oui, c'est un film sur les gens du voyage. C'est la première fois qu'on aborde cette thématique dans le festival. Un film d'Emmanuel Lacoste qui montre un peu la vie d'un gitan qui est à la fois intégré et à la fois décalé de par sa culture, qui est un peu déchiré et qui essaie de trouver sa route pour lui, pour sa famille, dans cette difficulté. Voilà, un beau film. Et on aura pour le débat des intervenants de l'AZ31, c'est l'association qui aide à la scolarisation des enfants des gens du voyage, et puis une association de voyageurs qui s'appelle France Liberté Voyage, qui est régionale.
Voilà. Pour être totalement complet avant de clôturer cette émission, où est-ce que déjà on peut retrouver la liste de tous ces films, les lieux, les heures?
Eh bien, il y a le site du festival, festival-cinéma-droitsdelhomme.fr. On peut le trouver aussi sur le site de Médecins du Monde et des Amis du Monde Diplomatique. Après, donc, c'est très, très facile à trouver.
Souvent dans les centres culturels, les mairies de quartier, les musées, enfin tous les lieux culturels, on va déposer des affiches et des pliants.
À propos du coût, c'est le coût d'une séance de cinéma?
Voilà. Il y a des séances gratuites quand c'est dans des salles municipales de Toulouse, espace des diversités, salle du Sénéchal ou abattoir. Mais il y a un petit chapeau pour solliciter à la fin.
Et pour permettre de faire vivre l'association. Et je reprécise, toutes les villes où le Festival du cinéma et des droits de l'homme aura lieu: Auziel, Blagnac, Cahors, Carcassonne, Castres, Colomiers, Fronton, Lavelanet, Mirepoix, Muret, Ramonville, Saint-Gaudens, Saint-Giron, Samatan, Tarbes, Toulouse, Tournefeuille et Villefranche de Rouergue. Donc voilà, si vous êtes à côté, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Festival du cinéma et des droits de l'homme qui débute ce samedi pour voir si les films passent à côté de chez vous et en apprendre plus sur les droits humains. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nous parler de ce Festival du cinéma et des droits humains.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci encore. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Merci à Yannick Galupini qui a réalisé cette émission. Si vous voulez réécouter ce Vivante Église, il est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.